sport, nous écoutions huit grands flûtistes de renom, dont Jean-Pierre Rampal, qui nous a quittés récemment, jouer les deux premiers moments de ce concerto de Joseph Bonin de Boismortier. On peut rappeler d'ailleurs les noms des flûtistes qui étaient là.
Oui, dont il y avait donc Jean-Pierre Rampal, comme vous l'avez entendu, Alain Marion, et Maxence Larieux, qui vient de quitter d'ailleurs son poste de Genève. Il vient de quitter son poste, oui. Geneviève Amard, moi-même, bien sûr, Marie Boeuf, Jean-Louis Boumadier, Philippe Pierlot. Et puis je répète encore l'histoire. Non, je ne répète pas. Tu ne jouais pas. Il nous dirigeait la soirée. Enfin, c'est lui qui présentait.
Alors, donc, Georges Galician, critique musical et flûtiste, qui va nous parler de Jean-Pierre Rampal sous ses deux casquettes. Alors, d'abord le flûtiste, parce que, bon, vous avez eu un premier prix au Conservatoire de Marseille.
Et j'ai eu surtout l'honneur de travailler avec un homme merveilleux qui s'appelait Joseph Rampal. Parce que c'est le fait que tous ces grands flûtistes soient venus était un hommage à Joseph Rampal. C'était évidemment ça, le thème de la soirée. Vous parliez de thème tout à l'heure. J'ai donc eu l'occasion de le rencontrer pendant 3-4 ans, je ne me souviens plus, mais ouais, à peu près. C'était un homme d'une ponctualité extraordinaire, et il nous parlait de son fils, il parlait de Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, c'était la référence absolue. C'était le modèle parfait, quoi. Et en même temps, le contact parisien. Parce que dès qu'on avait fini ses classes ici, qu'on avait son prix, on avait des contacts avec Paris. C'était avec Jean-Pierre Rampal, non pas au conservatoire, mais chez lui. Je ne me trompe pas. Voilà. Et on parlait de Jean-Pierre, et il nous racontait quelquefois certains de ses exploits, parce qu'il l'étonnait, même techniquement, il racontait, je me rappelais tout à l'heure, les histoires de doigté, on a des doigtés facilités quelquefois pour dans les tris, comme ça. Et lui, il les faisait en doigté réel, et son père était absolument stupéfait, il me disait, mais comment fait-il? Voilà.
Alors donc, une admiration de père à fils.
Voilà, et aussi des exemples, des petites anecdotes. Vous savez que on ne doit pas, en principe, je ne dis pas en principe, avoir des aliments trop peu qui risquent de rendre astringents, qui risquent d'atteindre, si vous voulez, la souplesse des lèvres. Mais lui se moquait perdument. C'était un homme qui aimait la bonne chair, Jean-Pierre Rampal, et il mangeait les couscous les plus épicés.
C'était une force
de la nature. Et ça, il nous a, évidemment, bon, pour lui, c'était la réussite absolue. Mais beaucoup continuent à admirer Joseph Rampal autant, quelquefois sinon plus, que Jean-Pierre, sur le plan de la sonorité. Et son fils, évidemment, n'aurait été jamais pas jaloux, sur le plan de la pureté de la sonorité. Je veux dire qu'effectivement, Jean-Pierre Rampal est sorti du conservatoire, sorti entre guillemets du conservatoire de Marseille, donc des mains de son père. Il est allé dans la classe de Gaston Crunel, mais qu'a-t-il appris de plus que ce que son père lui avait appris. Donc sa renommée et sa réputation, qui a démarré tout de suite pratiquement après la guerre, avec notamment l'extension du répertoire baroque, du contemporain aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est dédicataire de la sonate pour flûte de Poulenc. Il a écrit pour lui, Poulenc l'a joué pour lui, et il a joué avec lui, il a créé avec lui. Je veux dire, donc, il y a on pourrait parler des heures entières sur...
Ah, vous parliez de sonorité, les médias se sont penchés à l'occasion de sa disparition sur sa flûte en or, qui a priori a beaucoup frappé les auditeurs.
La flûte du comte Rémusat. Et alors, à ce moment-là, effectivement, ça participait de la légende de Jean-Pierre Rampal. On parlait de sa flûte en or, parce que maintenant, beaucoup de flûtistes en ont des flûtes en or. Pourquoi? Ce n'est pas que la sonorité soit tellement supérieure, d'après ce que je crois savoir, mais c'est en raison de la qualité du travail. C'est en raison de la qualité, de la finition, enfin, ce qui m'a été dit. Je n'ai jamais eu, moi, de flûte en or. J'étais beaucoup plus modeste, d'ailleurs, je n'en méritais pas. Et donc, c'était pour la qualité, la finition du travail, un peu comme les grands pianos de concert. Je ne vais pas citer de marque particulière, mais on le sait très bien, qui sont fabriqués dans des conditions extraordinaires, de polis, dans l'eau, etc.
Remarquez, s'il y avait un piano en or massif, je ne rechignerais pas, personnellement. Alors, donc...
Je vais avoir les cordes.
Oui. Donc, Jean-Pierre Rampal, personnalité rayonnante. Est-ce que vous avez le souvenir de concerts autres que ceux qu'on a évoqués
Mais écoutez, je vais vous faire une confidence. Je pense que Jean-Pierre Rampal, d'après ce que j'ai lu et entendu, parce que je l'ai lu sous sa plume, mais je l'ai entendu, se plaignait un peu que Marseille le néglige un peu.
Faire sa victoire ne l'a pas oublié.
Je me permets de le dire à quelqu'un qui, évidemment, ne l'a pas négligé, c'est-à-dire vous. Mais il pensait, et ça je pense qu'il avait peut-être un petit peu tort, parce qu'on l'avait oublié, il a joué souvent. Je me souviens même qu'il avait joué avec Pierre Barbizet sur scène, encore il y a quelques années, avant 90 évidemment, à l'aide de la disparition de Pierre Barbizet. Ils avaient joué une transcription de la sonate de Franck pour violon et piano, sur l'opéra. Et il pensait que quand il venait ici, qu'on n'en parlait pas assez. Je peux vous assurer, pour être même à ce moment-là impliqué depuis quelques décennies dans la presse marseillaise sur le plan musical, qu'on en parlait, qu'on lui donnait tout le volume. J'ai même une photo absolument superbe de lui dans le Ballon des Offres. Donc là, je pense qu'il ne devait pas lire sans doute suffisamment la presse marseillaise, mais je pense qu'il était traité comme il convenait. Ce n'est pas un reproche que lui fait, vous en doutez.
Alain Marion m'a souvent dit la même chose. Vous avez été la première à m'inviter à Marseille. Oui. Il se plaignait un petit peu que Marseille ne les demandait pas suffisamment. Oui. Eh bien, moi, je vais me plaindre à l'inverse. Oui. Lorsqu'un grand monsieur comme Jean-Pierre Rampal ou comme Alain Marion disparaît, oui, on dit un grand flûtiste international. Rarement, on dit d'origine marseillaise.
Oui, oui.
Voilà. Vous alors savez, moi, je pense que nous avons des valeurs internationales issues de notre ville. Oui. Il faut savoir le dire.
C'est vrai. Mais Jean-Pierre Rampal ne se réclamait pas tellement du fait de notre
dommage.
Joseph Rampal, lui, j'ai une bande de sonore d'enregistrement chez moi. Non pas une bande vidéo, parce que c'est un enregistrement que j'avais fait au Conservatoire de Paris avec Jean-Pierre Rampal, son père et Maxence Larrieux, pour une émission sur le Conservatoire. Et j'ai la bande son. Et Joseph Rampal dit que sa vie à Marseille a été un enchantement. Tu parlais tout à l'heure de ça, effectivement, parce qu'il allait pêcher avec son ami l'oboïste, hein, qui était un grand pêcheur devant l'Éternel lui aussi, mais pas écrit de la même manière. Et donc, il était resté ici parce qu'il voulait continuer à rester dans sa ville. Jean-Pierre Rampal est allé à Paris et il disait dans cette émission, qu'il disait évidemment que beaucoup de Parisiens sont tous originaires de villes françaises, y compris d'ailleurs Marseille, mais lui se considérait quand même, je pense, non pas comme Parisien dans un sens restrictif du terme, dans un sens, si vous voulez, chapelle du terme, mais parce que il avait quitté sa ville depuis fort longtemps. Alors je ne sais pas si les reproches qu'il a pu faire quelquefois à certains organisateurs de ne pas l'appeler suffisamment étaient véritablement fondés, mais effectivement peut-être. Vous savez, c'est curieux, mais quelquefois les plus grands qui viennent ici à Marseille, parmi les plus grands artistes, n'ont pas toujours le succès qu'on pourrait souhaiter escompter. Je me souviens d'Émile Guillès, je cite souvent cet exemple, jouant devant 325 ou 330 entrées payantes, ce qui nous avait rendu absolument rouge de honte quand on a vu André qui lui-même a été stupéfait. Et Jean-Pierre Rampal, et cette soirée, Geneviève, qui était une soirée extraordinaire, qui aurait fait 2000 personnes au Met. Parce qu'il allait beaucoup aux États-Unis, vous le savez. Il avait toujours un succès fabuleux, Jean-Pierre Rampal. Partout, d'ailleurs, dans le monde, mais en particulier aux États-Unis, il disait. Où il jouait notamment avec Claude Bolling, des œuvres qu'il n'oserait pas jouer ici, parce qu'il n'y a pas de mauvaise musique. Il y a la bonne musique, mais ici, on a toujours un petit peu resté sur des positions un peu craintives dans ce domaine-là.
Quelquefois, les gens disent « je ne l'ai pas su », c'est donc à la presse de faire savoir.
Oh, cher ami,
nous, c'est de faire bien et à la presse de faire savoir.
Oui, puis c'était aussi une époque où festival, peut-être de Saint-Victor, continuait sa progression. C'est vrai que maintenant, on voit un festival qui a beaucoup de public, qui est repris d'ailleurs par des chaînes télévisées, puisque le dernier concert des Trois Ténors a été filmé pour Mezzo et que ça va continuer. Donc...
Vous savez, le succès d'un festival, comme le succès de n'importe quoi, ça ne peut pas s'improviser en 2-3 ans. C'est un travail de longue haleine.
Je tiens à préciser que Jean-Pierre Rampal était venu en 90 pour la mort de Pierre Mauvezet, et il avait joué dans le conservatoire, il était venu pour jouer en hommage à son ami disparu. En 90,
ce jour-là, il était venu spécialement.
Voilà. Oui, je revois Jean-Pierre Rampal dirigé dans la cour du conservatoire. C'était peut-être à cette occasion.
Il était dans la salle de concert.
Ah, d'accord. Je le revois dirigé dans la cour du conservatoire, je me souviens, une fois.
Peut-être, oui. Mmh. Parce qu'il avait fait aussi, il avait dirigé. Il avait dirigé au classique, je me souviens. Il s'essayait aussi à la baguette, il dirigeait au classique.
Voilà. Alors, on a évoqué le rapport de Jean-Pierre Rampal avec la musique contemporaine. On va le retrouver dans le final du concerto pour flûte de Khatchatourian. Alors, c'est une histoire tout à fait particulière. Tout à l'heure, on évoquait Georges Galicien, la dédicace à Jean-Pierre Rampal par Poulenc de sa sonate pour flûte et piano. C'est quelque chose d'énorme. Et là, c'est une histoire bien précise, à savoir que Jean-Pierre Rampal a demandé au compositeur qui avait écrit un concerto pour violon d'enfin une transcription pour flûte et suivant le chemin inverse de celui qu'avait suivi Oistrakh en s'entendant avec Prokofiev pour sa sonate pour flûte, et Oistrakh avait demandé enfin une version pour violon. C'est comme ça qu'on a des versions qui éclairent d'une manière différente les œuvres qui sont peut-être pas conçues au départ pour l'instrument soliste qu'on va entendre, mais qui prennent un charme et un enchantement tout à fait savoureux. Et bien voici donc le final de ce concerto pour flûte de Khatchatourian. Jean-Pierre Rampal est ici en compagnie de l'Orchestre National de l'ORTF, dirigé par Jean Martinon.
Un instrument brillant, un instrument soliste, un instrument virtuose.
On a réellement l'impression, effectivement, dans cette période des années 50-60, que des instruments qui étaient des instruments de l'orchestre ont émergé sous l'impulsion de grandes personnalités. On peut évoquer Cochereau pour l'orgue, Maurice André pour la trompette.
On dit ça également de la harpe et de Lili Daskin, et également.
C'est sans doute vrai, mais je veux dire que la flûte, c'était quand même une tâche plus difficile.
Ouais. De la guitare et Alexandre Lagoya, ce sont de grands solistes avec des dons exceptionnels qui ont mis à l'avant-scène des instruments qui peut-être n'y aurait pas été sans eux.
Alors je crois que Jean Patero a un témoignage pédagogique à nous livrer à ce sujet-là.
Je pense que Jean-Pierre Rampal a apporté la lettre de noblesse de cet instrument finalement. Parce que lorsqu'on arrivait de Marseille, moi je suis rentré chez Marcel Moïse, bien sûr vous venez de Marseille, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas fait les sons filés ce matin. Non, pas du tout, je n'ai pas fait les sons filés. Vous jouez naturellement, oui, d'une façon jalouse, n'est-ce pas? Et chaque fois il me disait... La même histoire. Je me suis rendu compte que dès que j'ai eu mon prix, bien sûr, très rapidement, j'ai été nommé au conservatoire de Troyes. Il y avait 3 élèves au conservatoire depuis 25-30 ans, parce que, en principe, les filles, on ne les prenait pas. Et principalement à Marseille, Rampal ne voulait pas de filles chez... Je parle de Joseph, pas de Jean-Pierre. Et ce qui est curieux, c'est que mon épouse actuelle, c'est-à-dire Jacqueline Delpiane, a été la seule qui a été acceptée par lui. Et ce que je vais ajouter, c'est que, parce qu'il fallait un 9e flûtiste, sans quoi il aurait été embêté sur le plan pécuniaire. Alors, ce que je peux rajouter, même mieux que ça, c'est qu'en fait... Elle était la première soliste à l'orchestre, moi j'étais le second flûtiste. Et au moment où je me suis permis, Jean Patero, le bon petit Patero, d'assurer la partie de soliste, parce que mademoiselle Delpiane était arrivée en retard, et que lorsqu'elle avait peur de rentrer, elle était repartie, il me dit, monsieur Jean Patero, contentez-vous de faire votre partie.
Oui, là, on retrouve une...
Vous réglerez vos comptes après, cher ami.
Un bel hommage de l'époux à l'épouse.
Oui, tout à fait. Oui. Je suppose qu'il y avait aussi de la courtoisie dans le fait de s'effacer, là, non? Un petit peu, quand même.
Alors, ce répertoire pour flûte, on parle effectivement de l'émergence de Jean-Pierre Rampal, et oui. Il a couvert pratiquement tout le répertoire de cet instrument. Qu'est-ce que vous, par exemple, vous sélectionneriez comme enregistrement, Georges Galician?
C'est vraiment très difficile, parce que dans le domaine baroque, il a apporté au répertoire baroque un éclairage, une vision qui, évidemment, est fort éloignée, me semble-t-il, de certains éclairages, de certaines visions qui ont été adoptées et proclamées comme étant les seules vraies par la suite. Lui, il s'est toujours opposé à ça, parce qu'il ne faut pas oublier, ça c'est une chose qu'il faut bien préciser, c'est que Joseph Rampal, puisque c'est avec lui que je travaillais, et donc Jean-Pierre, étaient des, j'allais presque dire, des fanatiques de la pureté instrumentale. Il fallait que ce soit d'une justesse absolue. J'écoutais la fin tout à l'heure de la sonate de Poulenc, et je revois encore Joseph Rampal, qui à ce moment-là, quand on finissait une phrase comme ça, levait les yeux vers le ciel, concentrait toute son acuité auditive pour que vous ne diminuiez pas le son à ce moment-là, pour que ça n'infléchisse pas. Et il fallait aller jusqu'au bout, parce que sinon, évidemment, on aurait droit à de remarques jamais violentes, mais à la remarque quand même. Donc c'était des fanatiques de la pureté instrumentale, l'un comme l'autre, de sorte que le répertoire était aussi fonction de ça. Et s'il a donné du baroque, son baroque n'était pas un baroque, si je veux dire, adopté maintenant, ou je vais presque dire traditionnel, mais il infusait dans le baroque une qualité de son, une qualité de jeu qui évidemment n'avait rien de comparable avec certaines des interprétations qui sont données maintenant.
Alors justement, je propose de retrouver Jean-Pierre Rampal dans de la musique baroque. Il s'agira d'un extrait de la sonate pour flûte et basse continue BWV 1034. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet enregistrement de 1975, Jean-Pierre Rampal est bien sûr en compagnie de Robert Véron Lacroix au clavecin, mais on trouve également à la viole de gambe Jordi Savall, un des premiers enregistrements de Jordi Savall, ce qui prouve qu'il avait quand même une connaissance des évolutions d'interprétation et qu'il ne refusait pas cette nouvelle lecture telle qu'elle progressait, sans refuser non plus le beau son et le cantabilé à la flûte.
Le beau son, certains phrasés, certaines respirations, certains faits, bon, tout ce qui fait le style.
Eh bien, on le retrouve tout de suite.